et bienvenue dans votre numéro du mois d'avril de Culture et nous, l'émission qui va vous parler de culture sur le département de l'Eure. Et cette émission est en coproduction entre Principe Actif et le département de l'Eure. L'occasion pour moi de retrouver Florence et Raphaël ce mois-ci. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, au sommaire de cette émission que nous avons concoctée et très dense, qu'allons-nous retrouver, Florence ?
Tout d'abord, il y aura Jérémy Tomzik, le directeur du festival Ça sonne à la porte, et Karine Manouvrier, qui est chef de projet culture au collège, qui viendra nous parler musique.
Ensuite, on accueillera Mathieu Gaillot, qui est président de l'association du festival Écoute ta planète.
Et ensuite, ça sera Monsieur Lochard, qui viendra nous parler de photographie.
Et tout de suite, sans plus attendre, nous avons une tradition dans cette émission, c'est le saviez-vous.
Merci JC. C'est bon, une petite blagounette. Alors, nous allons parler de l'Eure, département de l'Eure, l'Eure oblige. Donc, le saviez-vous que la rivière, enfin si on peut dire, oui, l'Eure s'écoule sur 225 km et traverse 4 départements. Et en fait, Aristide Briand est devenu fan de cet endroit, de là où il y avait la rivière. Et donc, il a décidé de vivre à Houlbecq-Cocherel. Et donc, il est décidé d'être enterré là-bas. Et donc, il y a une, voilà, Aristide Briand a fait de l'Eure sa maison principale. Et Houlbecq-Cocherel, c'est pas très loin de Auteuil-Outillet, où on parlera tout à l'heure du festival Écoute ta planète.
Merci Florence.
C'était Backdoor de Kaleo, c'est un nouveau single donc, qui est extrait de son troisième album Mixed Emotions et qui est sorti le 9 mai l'année dernière.
Toute cette sélection musicale, c'est la médiathèque départementale de l'Eure qui nous la propose.
Oui, c'est Romain maintenant qui a pris le relais et qui nous propose toute cette sélection.
Eh bien, merci Romain. Nous poursuivons avec nos invités, Florence.
Oui, donc nous revenons avec Jérémy Tomzik et Karine Manouvrier pour parler du festival Ça sonne à la porte. Jérémy, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que c'est le festival pour ceux qui ne connaissent pas, nous présenter un petit peu comment ça va ?
S'il en restait quelques-uns.
C'est vrai. Bonjour à tous. Alors le festival Ça sonne à la porte fête ses 20 ans cette année à Grosseuvre. Et pour l'occasion, passe sur 3 jours. Donc qu'est-ce que c'est Ça sonne à la porte ? C'est un festival de musique actuelle, tout public, familial, avec des têtes d'affiche, avec des groupes locaux, avec des groupes nationaux, internationaux. Voilà, c'est 3 jours de musique au soleil et les pieds dans l'herbe. C'est déjà prévu, ouais.
Alors, c'est la façon dont vous le racontez comme ça, Jérémy, c'est très festival, mais derrière tout ça, il y a une âme, il y a une volonté, il y a des valeurs qui sont portées quand même par ce festival. Je rappelle, c'est un festival gratuit, c'est loin d'être rien quand même sur un territoire de réussir à boucler un festival gratuit. Et en plus sur 3 jours, enfin même déjà à l'époque sur 2 jours, c'était déjà une vraie volonté quand même ça, cette gratuité et de mixer, comme vous le disiez, tête d'affiche et émergence locale.
Alors c'est un festival qui est effectivement porté par l'agglo Évreux Porte de Normandie, qui était porté avant par la communauté de communes La Porte Normande à Saint-André. Ouais, la gratuité, c'est là depuis le début, ça fait vraiment partie de l'ADN du festival et c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir au maximum. Donc ça fait 20 ans qu'on y arrive, donc on est plutôt content. Et c'est devenu une volonté politique même d'offrir un peu ce moment culturel gratuitement à la population, quoi.
Et quand je parle de valeurs portées par le festival, c'est au-delà de ça, il y a une âme, au-delà d'être un festival familial, parce que ça aussi c'est à souligner quand même, c'est un des festivals où il y a le plus de poussettes quand même, de bambins qui gambadent, mais quasi familial aussi sur la partie que le public voit un peu moins, sur la partie bénévole.
Ouais, la partie bénévole, en fait on a environ 150 bénévoles sur l'événement, et dans les 150, il y en a beaucoup qui étaient là en 2006, donc il y a 20 ans, et qui sont toujours là, ils sont plus vieux qu'avant, ils travaillent un peu moins, ils ont un peu plus de mal.
Mais un peu mieux, il y en a qui sont professionnalisés,
voilà,
carrément.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est une belle équipe, c'est une famille en fait, comme tu disais, c'est, voilà, les gens reviennent, je comprends pas pourquoi, parce que avec ce qu'on leur met dans la tronche, c'est parfois compliqué. Moi, à la fin de chaque édition, je me dis, ouais, ils vont jamais revenir avec ce qu'on s'est pris là, parce que c'est quand même du boulot, hein. C'est l'ambiance est super, franchement, tout le monde se marre, c'est vraiment très très chouette, mais c'est très très dur, quoi. C'est, voilà, accueillir autant de gens, on a fait 25 000 personnes l'année dernière, 32 000 l'année d'avant, voilà, il faut assurer que ce soit au bar, que ce soit à l'accueil, que ce soit sur les parkings, ouais, c'est du boulot.
Et du coup, la gestion des bénévoles, ça se prévoit combien de temps à l'avance pour justement bien gérer lors du festival ?
Bah 20 ans en avance, après.
Ouais, c'est un peu ça.
Ah oui, c'est beaucoup.
Non, bah on a la chance d'avoir un vrai noyau dur de bénévoles qui revient chaque année et qui invite un peu ses potes à chaque fois. Donc généralement, on commence en début d'année, au mois de janvier, à dire à tout le monde, voilà, les dates, c'est ça. Si vous êtes chaud, si vous êtes dispo, pensez à vous inscrire avant de mettre l'annonce un peu en ligne pour que n'importe qui puisse s'inscrire en tant que bénévole, quoi. Donc là, les inscriptions sont toujours en cours. On cherche toujours un petit peu de monde. On approche vraiment des 150. Là, on est vraiment plus très loin. Donc c'est un peu le dernier moment, si vous voulez participer à l'aventure, c'est maintenant, c'est sur le site internet du festival csalp.fr.
Donc on parle de cette ambiance, de ces valeurs, ça se ressent aussi sur la programmation. Alors un petit peu comme quand il y a des Coupes du Monde, tout le monde est sélectionneur, on est tous programmateurs. Cela dit, Jérémy, c'est vous qui composer cette programmation musicale, on l'a évoqué tout à l'heure entre tête d'affiche, scène régionale et compagnie. Quelle est un peu la recette pour s'adresser aussi bien aux jeunes, aux plus anciens, aux familles, à tout le monde, tout en proposant, j'ai envie de dire, une ligne éditoriale quand même sur ce festival depuis 20 ans?
Alors en fait, la recette, je la peaufine depuis 20 ans. J'ai commencé dès la première édition à construire une programmation très éclectique. J'ai pas fait de choix de me dire je vais faire un festival métal ou un festival rock ou un festival reggae. Voilà, j'avais vraiment envie que tout le monde puisse y retrouver un moment dans la programmation. Donc très très vite, dès la première édition, j'ai construit ma programmation comme ça et j'ai affiné. C'est-à-dire que il faut s'adapter aussi au public. Je me suis rendu compte au fil des années, par exemple, que de mettre un groupe de rock un peu énervé en toute fin de soirée, ça marche moins bien que de le mettre aux alentours de 19h-20h. Très bizarre, mais c'est comme ça. Je me suis rendu compte aussi que de finir très tard, c'était pas forcément une bonne idée parce que le public reste familial. Donc là, on pousse à. Je crois que le vendredi, on fait 18h-2h, le samedi, on fait 15h-2h et le dimanche, on fait 15h-minuit. On pourrait aller jusqu'à 3h, 4h du matin, mais en fait, on se rend compte que le pic est pas le même déjà selon les jours, entre le samedi et le dimanche. Donc là, le vendredi, c'est une nouveauté. On verra un petit peu si on a vu juste. Mais pour revenir sur la programmation, comme tu disais, c'est un vrai travail, c'est un vrai boulot. Et moi, c'est un boulot qui me tient vraiment à cœur. Je vais voir beaucoup de concerts, j'écoute de la musique tout le temps. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu dans tous les styles différents des artistes assez pointus pour amener par exemple cette année des artistes comme The Deep, qui est un groupe de soul américain. Il n'y en a pas beaucoup en fait des artistes qui font cette qualité de soul aujourd'hui. Alors c'est pas très connu du grand public, mais pour tous les gens qui aiment ce genre de musique, quand ils vont se retrouver devant, je pense qu'ils vont prendre une sacrée baffe quoi.
Et puis ceux qui vont découvrir vont se prendre la même baffe de qualité en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être fin connaisseur pour se prendre une baffe aussi, parce que c'est bon tout simplement quoi. On découvre et ça peut être très bon. C'est aussi être à l'affût parce que ça sonne à la porte, c'est pas un vieil charru par exemple, ou c'est pas un transmusical ou je ne sais quoi. C'est aussi avoir le nez fin de choper des groupes en émergence, j'imagine aussi. Enfin, c'est avant que ce soit plus accessible pour un sassonne à la porte.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que j'ai jamais eu les budgets de faire venir des artistes ultra connus. Et d'un autre côté, ça m'intéresse pas des masses non plus. Parce que de faire une programmation sur catalogue en se disant, bon voilà, tout ce qui passe sur les radios nationaux, tout ce qui passe à la télé en ce moment, on va prendre tous les artistes, on va les mettre sur une scène d'affilée et puis les gens vont venir parce qu'ils voient ça à la télé et ils seront contents. Moi, c'est pas du tout comme ça que je conçois la programmation. Le but, c'est... Alors, effectivement, on a des têtes d'affiche, on a des gens un petit peu plus connus que d'autres, on a des Yamé, des Deluxe, des FFF, par exemple. Mais on a beaucoup de choses aussi qui sont pas très connues, et on en parlait tout à l'heure en studio, même parmi Yamé, Deluxe ou FFF, y a plein de gens qui savent pas qui c'est, qui connaissent pas, quoi. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir quelques noms connus pour faire venir les gens, mais après, de les faire rester pour qu'ils découvrent tout le reste, parce que c'est que de la crème, quoi.
Et vous avez des retours des spectateurs par rapport à ce qu'ils ont découvert, par exemple qu'ils ont adoré tel ou tel.
Ouais, alors moi tous les ans j'ai des gens qui viennent me voir en me disant ah trop bien, Cosby par exemple, j'ai mis ça dans ma playlist, j'écoute ça tout le temps, ah super, Rufus Black. Et moi c'est gagné en fait, c'est exactement l'objectif, c'est que les gens puissent remplir leur playlist et réécouter un peu les artistes. En fait ils viennent vraiment faire de la découverte. Je crois que moi j'ai toujours eu ça un peu quand j'étais gamin, je me rappelle quand j'avais 13-14 ans, je passais mon temps à faire écouter de la musique à mes potes. Alors c'était des CD à l'époque, on trouvait des CD et puis ah, écoute ce morceau, t'as vu comment c'est mixé, t'as vu la batterie, t'as vu le son du truc, et je prenais la tête à tout le monde avec ça, à essayer de leur faire découvrir et leur ouvrir un peu les oreilles sur d'autres choses. Donc je pense que j'ai juste continué à faire ce que je faisais quand j'étais petit quoi.
C'est ça, à force d'embêter tout le monde, ils ont dit bon écoute, on va te filer un terrain de foot là, fais-nous ta soirée et on t'en reparlera.
Voilà,
c'est ça l'idée. C'est hyper important, et c'est aussi, ce festival, il est inclus dans une dynamique locale. Ça veut dire qu'on retrouve des acteurs locaux. On va y arriver tout à l'heure dans un instant aussi sur les acteurs collégiens aussi. Mais c'est inscrit aussi dans une réalité à l'année de ceux qui font vivre le territoire.
En fait, quand on monte ce genre d'événement avec autant de force, de gens, de budget, de public, on se doit de toute façon de montrer l'exemple. Donc pour nous, c'est hyper important de montrer l'exemple sur à peu près tous les aspects possibles, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur les circuits courts, que ce soit sur... voilà. Alors, ça va d'équiper tout l'éclairage scénique en LED je sais pas, cette année on passe en pack batterie par exemple pour essayer de limiter un peu le nombre de groupes électrogènes sur site. On va planter des arbres avec les enfants de l'école de Grosseuvre pour essayer de contrecarrer l'effet. En fait, on essaye vraiment d'être bon élève un peu partout et de montrer aux gens qu'on peut essayer de faire les choses correctement. Alors ça, oui, il y a les gobelets réutilisables, on travaille avec une bière locale, on fait venir une radio locale. Voilà, on essaye vraiment de privilégier les circuits courts et de mettre en avant tout ce qu'on peut faire, quoi.
Et puis c'est là où on fait la transition un petit peu sur notre échange, mais c'est aussi l'opportunité de proposer de la découverte culturelle aux collégiens, à certains collégiens du département.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le Festival Choral des Collèges, c'est un dispositif qui existe depuis, je ne sais même pas, je dirais 30, 40...
On a Karine avec nous, oui,
depuis,
qui peut compléter.
Depuis très longtemps, c'est un dispositif académique, académique, mais qui en fait se déroule dans toutes les académies de France. Depuis quelques années, nous sommes rapprochés en fait des professeurs coordinateurs de ce dispositif, et notamment d'Aimée Darcissac, qui est la professeure coordinatrice du Festival Choral d'Évreux. Donc au tout début, en fait, il s'agissait surtout de proposer une rencontre avec un artiste musical et des créations en fait avec les classes chorales. Et puis de fil en aiguille, aussi par rapport au partenariat déjà présent du département avec le Festival Ça sonne à la porte, donc Jérémy, le département et du coup la professeure coordinatrice, voilà, finalement il y a une émulation qui s'est créée, d'où la présence en fait des élèves collégiens lors de Ça sonne à la porte.
C'est avec Michel Hubert cette année qu'ils auront bossé. C'est ça l'idée. Alors... Je vois que vous faites un sourire, Jérémy.
Je vous laisse imaginer la tête des profs quand on leur a annoncé que, enfin, quand je leur ai proposé Michel Hubert. Ça a été un peu compliqué.
Ils connaissaient déjà ?
Non, mais je pense qu'ils sont allés écouter et qu'ils se sont dit « Oh là là, vraiment, vous êtes sûr qu'on va faire ça ?» Moi, ça fait 2 ans que j'essaie de le faire avec Michel Hubert. On n'a pas réussi l'année dernière. On est très très contents, on l'a fait avec Maddy Street il y a 2 ans, on l'a fait avec Jane Horseman l'année dernière, on l'a fait avec la Maison Tellier la première année. Donc effectivement, Michel Hubert, ça arrive un peu comme un ovni sur le truc. Mais oui, c'est un ovni de toute façon, ce mec.
À la fois un ovni, mais en même temps, il est très 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 pédagogue. Le contact est vraiment vraiment très bien passé avec les élèves. Donc,
moi, j'en
génial.
Étais sûr. Je savais que ça allait bien se passer.
Alors, ils ont travaillé sur une période. Ils ont fait une création, c'est ça, et on va la retrouver sur scène. C'est alors, ce qu'on écoute derrière Michel Hubert. Là, je mets un petit extrait en tapis derrière.
Alors, en fait, ouais, ils ont bossé avec. Enfin, il a travaillé avec 4 collèges.
Oui, c'est ça. Donc le collège de Gagny, Aisy-sur-Eure, Brionne et Gravigny.
Donc il y a un morceau qui a été réalisé par collège, plus un hymne. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu Michel Hubert, il aime bien faire des petits hymnes pour annoncer chaque festival qu'il va faire. Donc on a eu cette idée avec lui de faire l'hymne « Ça sonne à la porte ». Donc il a créé ça avec les collégiens. On peut vous le dévoiler qu'il y a un clip qui a été tourné, qui va sortir prochainement. A priori, on est en train de voir pour que tous ces morceaux-là soient à disposition sur les plateformes de téléchargement,
d'écoute,
de streaming, voilà. Et c'est très très chouette. De toute façon, c'est toujours un moment sympa, que ce soit justement ces ateliers dans les collèges ou la restitution le dimanche en ouverture avec les 900 collégiens, c'est vraiment super, quoi.
Et du coup, le dimanche, c'est les 4 chansons. Enfin, c'est combien de chansons ils vont faire ?
En fait, la chorale se produira pendant près d'une heure avec leur répertoire classique, avec une thématique. Donc cette année, c'est la vie d'artiste. Et Michel Hubert a été invité en fait à créer avec les élèves donc 4 créations autour de cette thématique-là. Donc en fait, il va y avoir le répertoire classique, les créations et 2 reprises en fait de Michel Hubert. Voilà.
De quoi pas s'ennuyer, passer un bon moment, j'imagine.
Et comment on gère le stress des collégiens? Comment ça se passe?
Alors, on met la croix rouge derrière la scène. Parce qu'on a beaucoup de petits malaises, de petites choses comme ça. Mais généralement, ça se passe bien. Ils sont super contents d'être là. Puis on a un super directeur technique qui est là pour les driver. Qui d'ailleurs a fait la chorale des collèges quand il était petit. C'est pour vous dire à quel point c'est jeune.
C'est combien de choristes en même temps sur la scène?
Alors on est sur, de mémoire, entre 400 et 450 en même temps. Là, je ne sais pas combien on est actuellement. Dernièrement, les chiffres, on était entre 800 et 900 au total, je crois.
Oui, c'est ça, à peu près. Ouais.
Voilà, donc malheureusement, même si on a une grosse scène, on ne peut pas faire monter 900 collégiens en même temps, pour des raisons de sécurité. Donc, on fait deux groupes, quoi.
Et qui dit 900 collégiens, dit autant de parents aussi qui viennent les voir. J'imagine que du coup, sur le dimanche, ça apporte aussi un nouveau public sur l'événement.
C'est comme ça qu'il expose les chiffres, hein, Jérémy.
Oui, effectivement, voire plus, puisque comme le festival étant gratuit, les accompagnants ne se sentent pas limités. Donc non, il y a la famille au complet qui vient.
Effectivement, on a un bon pic de fréquentation à l'ouverture le dimanche.
Ce qui explique les poussettes, en fait.
Pas que,
non, parce qu'en fait, les poussettes avant,
c'est ouais. Tout au long. Hein, les poussettes, c'est quand même tout au long. Je me suis permis d'insister là-dessus, mais c'est vraiment... Il est rare de voir dans un festival autant de jeunes enfants qui viennent découvrir, quoi. Ils sont d'ailleurs plutôt bien équipés en protection. Il y a même un espace kids.
Ouais, c'est ça.
Mais ils sont d'ailleurs bien équipés, je trouve, globalement, pour les protections auditives. Il y a un boulot qui est fait là-dessus par le festival Ça sonne à la porte.
Ouais, nous, on fait ce travail d'aller chercher des bouchons d'oreilles pour les adultes et des casques anti-bruit, du coup, pour les plus petits.
Et du coup, on voit...
Ils sont mis à disposition.
Voilà, on voit plein de bambins. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un parent qui se dirait « Ouais, non, mais c'est hyper bruyant, un festival. Bougez pas, l'équipe de Ça sonne à la porte a prévu la solution. »
Alors, mise à disposition gratuitement. On demande juste la carte d'identité pour pouvoir garder la carte et rendre le casque à la fin.
Pour revendre les cartes d'identité à côté, c'est comme ça qu'ils financent le festival.
Pensez à prendre vos cartes d'identité si vous voulez un casque anti-bruit.
Tout à fait. On rappelle, premier week-end du mois de juin, c'est installé dans nos agendas depuis 20 ans maintenant, du coup. Hein.
Ouais, c'est ça, 5, c'est 6, 7 juin.
5, 6, 7 juin, 3 jours cette année pour découvrir au maximum et puis aller voir quelques artistes qu'on connaît déjà pour une bonne partie des visiteurs. Il y a autre chose à savoir sur ce festival, Jérémy, une astuce, un tips que seuls nos auditeurs auraient pour vivre un festival à 300%.
Alors, ce que je peux dire là, essayez de penser à covoiturer, parce qu'on va vous mettre plein de nouveaux parkings. Alors, vous allez voir, ça va changer un petit peu cette année. Depuis 20 ans, l'entrée du festival est au même endroit. Là, on l'a décalé. Donc, l'entrée du festival change. Les parkings ont également changé. Donc, cette année, il va falloir que tout le monde arrive par jumelles, donc Saint-André jumelles, pour arriver vers la grosse œuvre. Donc, ça fait un petit détour, mais on a des parkings vraiment sympas. Vous allez arriver directement sur l'entrée du festival. Donc oui, pensez à covoiturer. On remet en place les navettes avec Transurbain pour emmener les personnes qui ne sont pas forcément véhiculées ou qui n'ont pas envie de prendre leur véhicule. On remet en place la tombola aussi cette année et on a la chance pour les 20 ans d'avoir notre ami hébroïcien Tony Giraud qui nous refait une guitare. Donc,
ça sonne à la porte.
Donc voilà, pour 2 euros, vous pourrez gagner éventuellement la guitare Giraud d'une valeur de 2 500 €. On a aussi plein de petits lots avec des acteurs locaux comme Ekil & Jekil, Eva. On a des passes hypercubes à gagner pour la salle Jean-Pierre Bacri à Conches. Voilà, il y aura plein de choses à gagner aussi.
Eh ben, c'est plutôt pas mal. On va conclure cet échange avec un morceau issu de la programmation, un choix de faire une écoute d'un groupe régional, Flying Blanket Mystery. Quelques mots peut-être dessus, Jérémy, pour introduire ce morceau Rainy Day.
Alors, Flying Blanket Mystery, c'est un trio punk de Rouen. Moi, je les ai découverts aux présélections des Inouïs du Printemps de Bourges. On m'en avait déjà parlé. Ils sont tout jeunes, mais c'est vraiment très très chouette. Et je pense que c'est un groupe vraiment en devenir.
Flying Blanket Mystery, c'est ça qu'on écoute. What the hell? Flying Blanket Mystery qui sera programmé sur le festival Ça sonne à la porte. Et je suis en train de voir si je trouvais pile poil l'heure, le jour, le moment où vous les verrez sur scène. Bah non, vous n'avez qu'à venir les trois jours et vous les croiserez au bout d'un moment sur scène. Oui, j'ai pas sorti tous les éléments pour pouvoir vous le dire. Tu avais la réponse, Raphaël, c'est ça?
Non, mais vous avez toutes les informations sur sasonnalaporte.fr. N'hésitez pas à aller découvrir les trois jours.
Exactement.
Le site est très bien fait, vous avez tout dessus, mais j'ai pas l'info en direct, non.
Eh ben moi je l'ai en fait, Flying Blanket Mystery jouera juste après la chorale des collèges le dimanche.
Super.
Raphaël, nous avons un nouvel invité qui s'est installé à nos micros.
Oui, tout à fait, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Caillot. Bonjour Mathieu, vous êtes président de l'association qui s'occupe, l'association Écoute ta planète, qui organise le festival Écoute ta planète qui va se dérouler le 16 mai prochain à Auteuil-Authouillet. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du festival et en quoi il consiste ?
Eh ben bonjour. Donc le festival Écoute ta planète, c'est sur la journée, c'est un espèce de mélange entre une fête de la nature et un festival. L'idée c'était d'associer les deux, l'écologie et la fête, pour attirer les fêtards qui découvrent l'écologie et puis les gens qui sont passionnés de ça aillent s'amuser aussi et profiter du festival le soir. Donc sur la journée, on a une cinquantaine de structures acteurs de l'environnement dans le département, même à l'échelle régionale. Des structures de grande ampleur, enfin des structures nationales, comme des petites associations comme la nôtre. Donc sur la journée, il y a des ateliers, des sorties, des animations, des conférences, enfin énormément de choses, des jeux, etc. de prévus jusqu'à 17-18 heures. Et à partir de 17 heures, les concerts commencent jusqu'à 1 heure du matin.
Génial. Alors l'initiative à la base, elle date de quand? Quand est-ce que le festival a été créé? Et comment est-ce que vous avez eu cette idée justement de mélanger les fêtards et les... proche de l'écologie, amoureux de la nature, on dira.
Tu allais dire écolo.
J'allais dire écolo, mais je fais attention. Qui est un bon mot, hein, c'est pas...
En fait, c'est parti d'un projet en BTS, d'initiative à la communication qui n'a pas pu se faire avec le Covid. Ça devait se faire en Sarthe, ça ne s'est pas fait. Et en fait, autour d'un apéro pendant les vacances, on s'est dit, sinon on le fait chez nous, parce que on connaît tout le monde, enfin tout est plus facile quand c'est chez soi. Et du coup, c'est parti avec une équipe de copains. On a commencé comme ça. Et voilà, c'était en 2022, la première édition. Et on le fait tous les deux ans. Donc là, c'est la troisième édition cette année.
Génial. Et du coup, c'est... Alors effectivement, vous avez des visiteurs qui reviennent. Est-ce que vous avez déjà de l'engouement? Et est-ce que justement, les visiteurs, vous voyez que... entre le côté festif justement et nature, est-ce que vous sentez que l'un et l'autre se coordonnent bien, ou est-ce que ça nourrit effectivement? Est-ce qu'on a des fêtards qui se mettent à s'intéresser à l'écologie ou inversement?
Ouais, complètement. C'était le but et ça marche plutôt bien parce que voilà, on a des gens qui vont venir dès le matin, ils arrivent avec les chaussures de marche, ils veulent faire toutes les sorties, tous les ateliers qu'ils peuvent et tout ça. Et on va les retrouver le soir rincés de la journée, mais tout contents de profiter du festival. Et on a d'autres personnes qui viennent pour les concerts qui sont à la base moins. Ils sont plus néophytes sur le sujet et en fait, ils vont arriver sur les coups de 15 heures. Vont découvrir plein de choses et souvent on a plein de copains, comme c'est dans nos bleds, c'est chez nous, c'est dans nos villages, qui nous disent tiens c'est super, je connaissais pas tout ça, j'ai découvert plein de trucs, je vais m'inscrire dans telle association, je vais peut-être me mettre à faire ça dans mon jardin ou autre, donc c'est ça qui est assez sympa.
Et du coup, par rapport à la ville d'Auteuil-Authouillet, est-ce qu'il y a un engouement des habitants aussi sur ce festival?
Ouais, complètement. Là sur le festival, en fait, on est forcément. Comme du coup c'était assez rigolo d'entendre ça sonne à la porte, parce que du coup on connaissait pas trop les tenants et aboutissants, on est un peu plus loin, on voit pas trop ce qui se passe. Et le travailler local, en fait tout vient de moins de 10 km, 5 km, toutes les associations, les structures autour, les entreprises et tout ça, tout le monde participe. Faut savoir qu'on a un festival qui est financé à plus de 90% en autonomie ou par les partenaires privés. Donc c'est que des mécènes, on a l'agglomération Senneur et la mairie qui nous financent un petit peu, et après tout le reste c'est que du partenariat privé, donc ça, c'est vraiment très très local quoi.
Il y a une volonté, comme le disait Ça sonne à la porte tout à l'heure, enfin Jérémy de Ça sonne à la porte, de gratuité aussi chez vous sur le festival.
Ouais, complètement.
À quoi ça tient? Qu'est-ce qui pousse cette envie de proposer un festival gratuit?
Le but c'était de déjà que ce soit ouvert à tous. Voilà, parce qu'on sait très bien que les festivals à 50 euros la place, c'est destiné à des gens qui ont les moyens d'y aller. Nous, on est dans des petits villages. C'était de faire quelque chose de vraiment populaire pour qu'on puisse. C'était vraiment de faire une grosse fête de village, tourner sur l'environnement et rendre le festival payant. En fait, ça incite pas des gens qui sont pas intéressés par le sujet à venir. L'idée, c'est vraiment de toucher des gens qui n'y connaissent rien ou qui s'y intéressent pas en temps normal et qui se disent, allez, on va aller faire un tour. C'est le public, je pense, pour nous en écologie, le plus dur à toucher dans tout ce qu'on fait, c'est de toucher des gens qui sont pas intéressés par le sujet et qui vont découvrir des choses en se disant, oui, en fait, justement, c'est pas que des écolos qui sont chiants et qui veulent qu'on fasse rien et tout ça.
Oui, écolo, ça veut pas dire chiant, hein. Les écolos savent très bien faire la fête.
Bah, c'est ça. Mais justement, c'est ce qu'on essaie de montrer et que voilà, c'est pas un gros mot d'être écolo, d'être tout ça, ça veut un peu rien dire en fait.
Il y avait la notion de sobriété qui était pas forcément réjouissante dans les. Enfin, en affirmé comme ça, quand on parlait d'écologie, il y avait toujours cette notion de sobriété de consommation, hein, qui était lié et qui est toujours lié d'ailleurs, hein, et ça donnait parfois la sensation d'un truc moins joyeux, mais pas du tout.
Ah non, pas du tout, ouais. Et puis on peut être, il peut y avoir de la sobriété tout en étant, on fait fonctionner du local, on mange correctement, et voilà, l'idée c'est de limiter le gaspillage et tout le bazar.
On mange même mieux souvent.
Ouais, oui, clairement.
Et du coup, par rapport aux deux précédentes éditions, vous avez eu des retours des participants en fait sur...
Ouais, on a eu pas mal de retours. Même là, ce qui est assez... Par exemple, pour tout ce qui est... tous les exposants qu'on a sur la journée et tout ça, on fait plus de pub comme avant, en fait. On a nos habitués, on a des nouvelles associations, structures qui nous contactent sans qu'on aille les chercher. Et c'est quelque chose qui était quand même assez attendu, en tout cas dans la vallée, où on en entendait parler un peu partout en disant c'est quand que ça revient, etc. Donc voilà.
Ça fait plaisir, j'imagine.
Ah oui, carrément.
On organise un événement et que derrière, le public réclame suite. Voilà, ça aide à faire l'édition d'après.
Exactement, ça donne envie.
Après, pour se rendre un petit peu compte, dans les ateliers que vous alliez proposer, j'ai vu que vous aviez de la vannerie, j'ai vu que vous aviez des rencontres avec des botanistes et des naturalistes, on peut faire du dessin. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un peu plus ? Est-ce qu'il y a des...
Ouais, donc... Cette année, la particularité, c'est on rajoute les conférences avec des auteurs de livres ou de guides, etc., de projets, en fait, sur l'environnement. L'idée, c'est d'avoir des temps d'échange avec vraiment des gros spécialistes à l'échelle nationale. Après, on va aussi avoir plein d'activités destinées aux enfants avec des chasses au trésor sur le thème de l'environnement, etc., des sorties avec des spécialistes de tout horizon. On a même des spécialistes des papillons de nuit ou des micros, les hétérocères, les micro-papillons. Papillons de nuit. Et après, il y a des choses où on va pouvoir apprendre à faire du torchis, on va pouvoir apprendre à toutes les bonnes pratiques au jardin. C'est l'écologie avec un grand E, on va dire. C'est vraiment très très large pour montrer que dans des spécialités comme le spécialiste des papillons de nuit, il va pouvoir aussi voir des choses sur les énergies renouvelables, sur le recyclage, sur toutes les initiatives qui existent.
Tout est entremêlé quand même quand on parle d'écologie. On peut pas uniquement parler de bâti, on peut pas parler uniquement d'insectes et de visites dans la nature. C'est quelque chose justement qui se tient dans son ensemble, en fait, cette notion d'écologie, en tout cas d'équilibre écologique.
Ouais, c'est exactement ça. Bah justement, écologie, c'est les conditions biotiques, abiotiques, en fait, tout ce qui est... c'est vraiment tout réunir pour dire ça c'est l'écologie d'une espèce. Et du coup, c'est de montrer que nous, notre écologie, elle peut être à la fois résiliente, sobre... Et en faisant énormément de choses, en découvrant plein de choses, quoi.
Et justement, ceux qui participent, enfin qui proposent des animations, est-ce qu'ils vont voir les autres aussi pour échanger sur différents sujets ?
Ouais, l'idée aussi du festival, c'était de réunir toutes les structures. Réunir toutes les structures qui se connaissaient pas forcément et des fois ce qui se tirait un peu entre guillemets se tirait un peu dans les pattes parce que ils faisaient pas la même thématique et eux c'est nul ce qu'ils font, etc. Et donc on a un groupe WhatsApp où on met tous nos partenaires, etc. Et il y a une vraie synergie qui s'est créée autour de ça avec des projets qui se sont développés grâce au festival en disant ah mais je savais pas que tu faisais ça, t'es à côté de chez moi, bon on va bosser ensemble, et il y a des projets qui se développent avec eux.
L'écologie dans le monde dans lequel on vit, ou en tout cas l'équilibre écologique, enfin j'aime bien parler plutôt d'équilibre écologique, comment dans le monde qu'on vit, il n'est pas forcément évident. Est-ce que on parle de militantisme, est-ce qu'on parle de résistance éventuellement, comment est-ce que c'est abordé dans Écoute ta planète?
Et justement, nous le festival, le but c'est de faire quelque chose qui n'est pas militant, parce que le militantisme, par définition il y a des militants, donc il y a des opposants. Et il n'y a pas de raison de s'opposer à ça, en fait. Donc, Le festival n'est pas militant, on n'a pas de structure militante, ou si certaines structures sont militantes sur des partis, bah là, ce jour-là...
Alors, pas forcément en parti politique, j'entends militant,
militant moi, je pense,
associatif, même.
Exactement, ouais. Même le militantisme associatif et tout ça, on évite ça. L'idée, c'est de proposer des solutions et pas forcément montrer les problèmes. Ou alors, si on montre un problème, on propose une solution direct derrière. Histoire de pas, justement, bloquer les gens et se dire, en fait, on fait tout mal, etc.
On l'évoquait, c'est festif aussi, ce festival. Là, on a parlé des ateliers, on a parlé de l'idée qui pousse derrière. Il y a aussi une belle programmation musicale qui est proposée. J'ai presque envie de poser la même question qu'à Jérémy, mais il y aurait eu un autre type de réponse. Comment se fabrique cette programmation musicale? On a quand même Batucada, on a Hippocampfou, on a Bardix le Gaulois, Octopus, et puis un DJ, c'est ça, en fin de soirée. Comment se fabrique cette programmation musicale?
Alors la programmation, c'est ce qu'on écoute avec les copains en soirée. Puis à un moment, on se dit, bon, on va mettre des messages et on verra bien sur qui on a des accroches. Et du coup, c'est des artistes souvent, en fait, nous, c'est aussi l'éclate. Le but, c'est de se dire, on fait un festival pour que tout le monde en profite, mais nous, il faut qu'on s'éclate. C'est avant tout une fête de copains pendant 3-4 jours. Donc en fait, c'est vraiment, celui-là, il est super, on va essayer de voir si on peut le rameuter chez nous et on voit si ça passe en budget et puis c'est parti quoi.
Dans les grands noms, il y a notamment Hippocampfou qui lui-même est à titre personnel quelqu'un qui s'est posé des questions autour de l'environnement, autour des questions écologiques. C'est par ce biais-là que vous l'avez sollicité, contacté ou pas forcément?
Pas du tout par ce biais-là. Je pense qu'on l'écoutait parce que justement dans ses textes, des fois il y a des choses qui nous parlent un peu plus. Et sinon, c'est vraiment le pur hasard. Et alors l'anecdote qui est assez drôle. On se posait la question depuis un moment. L'année dernière, on va, ça sonne à la porte. Et il descend dans la foule. Et nous, on était avec 3 copains. Et il vient et puis il danse à côté de nous. Et du coup, on se dit, bon, bah, ça serait Hippocampfou, quoi.
Ah ouais, c'est
c'était
un signe.
Le signe. C'était le signe. Voilà, donc c'était très drôle. Et on a dit, bon, voilà, c'est parti.
Ce festival, ça va être le 16 mai à Auteuil-Autouillet. Des éléments à savoir, des astuces, des trucs. Il faut réserver les ateliers. C'est sur place qu'on se débrouille.
C'est tout ça se passe le matin. On a donc le stand Écoute ta planète avec le point info, etc. Tout se fait sur place. Les inscriptions à toutes les sorties. Étant donné qu'on travaille avec du vivant pour tout ce qui est sorti, atelier, etc., pour beaucoup de choses, ça va dépendre aussi de la météo. S'il y a du vent ou autre, les sorties vont être décalées. Donc en fait, tout se fait en direct sur site et les inscriptions se font. Si vous voulez faire pas mal de choses, venez dès le matin et mettez des chaussures de marche. C'est le conseil.
Bah oui, c'est ça. C'est, bah...
Évidemment.
Ils vous ont prévenu, ils vont vous promener. Alors, équipez-vous, quoi. Ils nous l'ont dit, on peut pas faire semblant qu'on va se faire avoir quand même. Sur ce festival, on parlait de l'association Écoute ta planète. Quel est ce réseau de Écoute ta planète? Combien de bénévoles? Tout à l'heure, tu évoquais trois camarades, mais j'imagine qu'il y a plus de monde derrière tout ça sur une organisation de festival.
Sur l'organisation, maintenant, on est entre 15 et 20. Pour vraiment toute l'organisation, on fonctionne par responsable de pôle, etc. Après, sur le jour même, en gros, nous, on monte tout le vendredi. On a de la préparation avant. On monte tout le vendredi, on démonte tout le dimanche. Et on est à peu près une centaine sur les 3 jours. On est large. Le but, c'est que les bénévoles puissent profiter aussi du festival. Voilà. Et après, sinon, sur l'association, on est une petite centaine. C'est une asso qui a à peu près 3 ans.
Ça se passe sur le verger du parc, c'est ça, si
exactement.
Je dis pas de bêtises. C'est quoi ce verger du parc?
Le verger du parc, c'est un terrain qui appartient à la commune de 2 hectares, qui n'était pas utilisé depuis des années, qui est en plein cœur du village, il n'y a pas de route, c'est vraiment le terrain parfait. Donc on a fait pas mal de projets avec les enfants de l'école. Du coup, ils en parlaient tout à l'heure aussi, la plantation de vergers. Ils feront classe dehors sur ce terrain à partir de l'année prochaine. Il y a eu plein d'actions menées sur ce terrain et c'est un peu devenu le terrain un peu du festival d'Auteuil.
Vous y prenez vos quartiers chaque année. C'est la 5e édition, c'est ça, cette année?
Troisième, on fait tous les 2 ans.
Je vois déjà dans le futur, moi. C'est, tous les 2 ans, l'occasion de s'emparer. Et cette année, pour la 3e édition. C'est le 16 mai, là, hein, c'est dans 2 semaines à peu près, enfin un peu plus.
Ouais,
mais
c'est
pas, voilà, c'est, oui, il y a 2 semaines devant vous. C'est quoi les préoccupations?
C'est,
parce qu'on sait qu'il y a des préoccupations 15 jours avant.
C'est terminer les décors, terminer la préparation, aller chercher tout le matériel un peu partout. voilà, rencontrer nos partenaires quand on a besoin, aller chercher toute la logistique qui est vraiment à fond en ce moment, et prévoir l'accueil de tous nos bénévoles.
Et puis du public qui arrivera le 16. À partir de quelle heure ?
À partir de 9h du matin.
9h du matin, ouais. Ah ouais, il va falloir se lever, quoi.
Ouais,
c'est ça l'idée.
Jusqu'à 1h en plus.
Jusqu'à 1h, il faut tenir. Et on va bien manger, il nous l'a dit Mathieu, on va bien manger. Donc,
On mange bien, il y a la cantine locale cette année, c'est des producteurs locaux qui font directement à manger.
Ce sont les producteurs qui font à manger, j'imagine, avec leurs produits, qui cultivent et qui les préparent.
Ouais, et puis dans cette vallée qui est quand même magnifique, il faut le dire, c'est un endroit incroyable à découvrir en termes de nature, et on voit que ça infuse de partout, donc on a hâte d'y être.
Vous l'aurez compris, c'est Auteuil ou Touillet que ça se passe, c'est le 16 mai, c'est de 9h à 1h, hein, c'est à peu près ça l'idée. Si vous voulez faire les ateliers, Mathieu nous le disait, n'arrivez pas tard, parce que les inscriptions et l'organisation, ça se fera sur place. J'imagine que c'est un festival forcément familial.
Ah, c'est hyper familial. C'est pour le coup, ça revient à ce que j'entendais tout à l'heure avec ça sonne à la porte. Voilà, il y a de la poussette partout, etc. C'est vraiment tout le monde vient passer un petit moment avec les enfants, etc.
Et c'est parfait. On se chauffe le 16 mai à Auteuil-Touillet, et quand on est bien entraîné, on peut faire les 3 jours de ça sonne à la porte. Premier week-end de juin. On est bien là.
Oui,
on donne des astuces.
Sort, c'est bien.
C'est ça, et puis on donne les astuces de comment se préparer, comment se mettre bien, arriver de bonne heure, machin. Non, on est bien. Merci beaucoup, merci. Mathieu, de l'association Écoute ta planète, qui propose le festival Écoute ta planète le 16 mai à Auteuil-Touillet. On repart en musique avec un choix qu'on débriefera juste après, okay, si vous le voulez bien.
The natural facts that a man don't understand that viper riding dead zone. I just tell you that though, but he better have religion now. I just tell you that though. When you see people jump from church to church, you know that sacrifice don't amount to much, and that though. But he better have religion now. I just tell you that though.
Rosetta Tharpe, et c'est un de ses morceaux les plus connus, qui a été enregistré à la fin des années 30. Voilà.
Et oui, tout de suite, nous allons accueillir, du coup, parler du festival de Vernon
avec André Lochard.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour. Oui, en fait, c'est pas réellement un festival, c'est un salon international de photographie qui aura lieu début mai, du 9 au 17 mai.
Tout à fait.
Voilà.
Eh ben, merci beaucoup de le préciser, parce qu'on était dans les festivals juste avant, on a eu la transition blues. Non, mais on est très heureux. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter le festival,
le salon.
Excusez-moi.
Voilà, c'est un salon photographique. Alors, en fait, à la base, nous faisons un concours international dans lequel cette année nous avons reçu environ 3500 photos. Nous avons accepté 645. En fait, ça a été jugé par un jury de 9 juges pour les 3 sections qui étaient proposées au concours, section monochrome libre, couleur libre et un thème couleur qui cette année était c'est pas grave, on y reviendra plus tard. un thème spécifique. Sur ces 645 photos acceptées, nous en exposons 156.
Voilà. D'accord.
Nous exposons également environ 50 photographies du club photo de Vernon, et 30 photographies rétrospectives en accord avec en fait les 200 ans de la photographie qui sont fêtés en 2026 et 2027 partout en France. Et nous avons fait une petite recherche sur le thème que nous nous sommes fixés. Ça y est, elle m'est revenue. C'est le thème photographe et métier lié. Donc nous avons essayé de retrouver dans des photothèques, en libre de droit, des photographies sur lesquelles sont représentées des photographes en activité en réalité. Voilà, c'est le thème de notre salon. Nous exposons également 30 photographies de nos 9 juges qui ont effectué la sélection des photographies de ce salon.
Et justement, quels étaient les critères? Comment vous avez sélectionné? Vous êtes arrivé de 645
Les critères en général, disons qu'on demande au jury de noter les photographies entre 6 et 20. Alors les critères, ce sont bien entendu des critères de composition, des critères d'intérêt de l'image, des critères techniques également. Est-ce que la photo est floue? Est-ce que c'est un flou? Est-ce qu'elle est floue, un flou volontaire ou non? La composition, l'équilibre des lumières, l'équilibre des masses, tous ces éléments-là entrent en compte en fait. Chez les juges de façon relativement intuitive parce qu'en fait nous faisons appel à des juges qui ont des niveaux photographiques relativement élevés puisqu'ils sont bien pour la plupart ils ont des distinctions de la Fédération internationale d'art photographique ou de la Photographic Society of America. Notre salon est patronné par 4 fédérations: la Fédération photographique de France, la Fédération internationale d'art photographique, la Global Photographic Union et la Photographic Society of America. Et ces fédérations, quand elles patronnent des salons, les auteurs qui sont admis dans un salon photographique sous patronage obtiennent des points. Et au bout d'un certain temps et de beaucoup de persévérance, ils peuvent prétendre à des distinctions. Et donc c'est pour ça que nous, quand on choisit nos juges, on prend des juges qui ont des distinctions internationales, qui sont quelque part une certaine garantie d'objectivité et qualité du jugement.
Du coup, ça veut dire que dans le festival, vous avez vraiment ce rapport entre photographe professionnel et photographe aussi amateur ou semi-amateur, semi-pro, pardon. Et du coup, vous avez une vraie rencontre aussi sur les lieux du salon entre ces photographes.
Alors, les photographes viennent de partout dans le monde. Hein. On a environ 45 pays qui participent, 450 photographes qui ont participé au concours. Alors quelques photographes français font le déplacement quand ils sont dans la périphérie proche de Vernon. Sinon effectivement les photographes qui sont éloignés, on ne les voit pas. Alors personnellement, moi j'ai des contacts pendant toute la période de sélection d'inscription qui commence fin novembre et qui se termine début mars. Donc là, j'ai des échanges assez nourris avec avec les photographes sur le, sur les propositions, et je dois m'assurer que les photos qui sont proposées respectent les spécifications et les critères des fédérations de patronage. En particulier, par exemple, l'usage de l'intelligence artificielle.
Oui, qui est un vrai sujet aujourd'hui.
Ou également, parfois, comme cette année, nous l'avons vécu, des problèmes de plagiat. Donc ça peut être très problématique et très, très, très compliqué à gérer, en fait, vis-à-vis de l'auteur.
Et juste par rapport aux membres du club photo, comment ça se passe par rapport aux œuvres des photos d'artistes internationaux?
Les photos qui sont reçues. Alors nous, en tant que membre du club photo, on n'a pas d'intervention à proprement parler pendant le jury, enfin le jugement des photographies. C'est le jury qui est maître, de leur choix et de leur délibération, et nous on intervient a posteriori, alors en amont bien entendu, pour réceptionner toutes les photos. C'est un concours numérique, hein, on les reçoit sur nos systèmes d'information, et donc après le jury, donc on sélectionne 645 photos là cette année, en fait en réalité à peu près 20%.
Non, mais par rapport aux membres du club photo, ça va être assez pour eux et un petit peu émouvant d'être à côté d'artistes internationaux.
Innovant, non, parce que ça fait déjà de nombreuses années, ça fait maintenant 10 ans qu'on fait ce salon international. Avant, on avait un salon national uniquement patronné par la Fédération photographique de France. Donc effectivement, c'est quelque part un peu une émulation de voir les photos qui viennent de photographes. On a des photographes professionnels, hein, certes, beaucoup, par exemple en Russie, on a beaucoup d'auteurs photographes russes qui participent. Ce sont des portraitistes essentiellement, et beaucoup de femmes. Et donc pour les autres, pour les membres du club et puis les personnes qui viennent visiter notre salon, c'est effectivement assez intéressant et motivant de voir les photos qui sont réalisées et le gap qu'on a encore parfois à parcourir avant d'arriver à ces résultats-là, quoi. Donc cette année, et les précédentes années d'ailleurs, hein, on propose en marge du salon une cinquantaine de photographies des membres du club. Et on essaie d'être le meilleur possible, hein, pour faire honneur au salon, quoi.
Et donc le salon sera du 9 mai au 17 mai 2026. Il sera à l'espace Philippe Auguste à Vernon. Vous avez un vernissage donc le 11, si je ne m'abuse.
C'est pas le 11.
Tout à fait. Et vous avez aussi...
Le 9, excusez-moi, à 11h.
Ah, le 9 à 11h.
Voilà.
Ce sont les vacances scolaires, je suis désolée.
Non, ouais,
donc le samedi 9 à 11h, le vernissage. Et j'ai vu que vous aviez aussi des nocturnes qui permettent de découvrir les photographies dans un autre cadre, une autre lumière. Est-ce que ça, c'est une nouveauté aussi cette année?
C'est plutôt, en fait, les horaires d'ouverture sont l'après-midi, hein, pour tous les jours, jusque du 9 au 17, de 14h à 18h. Le samedi 16, ce sera de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et en fait, on fait une nocturne pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de visiter le salon sur les horaires normales, en particulier les commerçants ou les personnes qui viennent de région parisienne, qui travaillent en région parisienne. Et qui arrivent tardivement sur Vernon. Et donc, ça leur permet d'avoir un créneau horaire de 18h à 21h le mardi 12 pour pouvoir visiter notre salon. Les conditions d'éclairage sont toujours les mêmes, hein, puisque, en fait, dans l'espace Philippe Auguste, chaque photo a son propre éclairage, hein, une lumière LED individuelle. Et qu'on soit en journée ou le soir, ça ne change pas trop la lecture de l'image, mais c'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité de venir aux horaires normaux de venir tout de même visiter le salon.
D'accord. Et pour se rendre en idée, c'est l'année dernière, aux éditions précédentes, vous aviez eu combien de visiteurs?
Oh, on a environ 600 à 800 visiteurs par an sur toute la semaine.
D'accord, ok, ça marche. Voilà. Eh ben, merci Monsieur Lochard, président du groupe Photo Région de Vernon, pour cette exposition de photographie qui sera à découvrir du 9 au 16 mai.
17 mai. 17 mai,
pardon. Je vous en prie et je vous remercie de m'avoir contacté.
Bon, bah, très bon salon à vous, à bientôt.
revoir.
Merci, à bientôt, au revoir.
Et nous, ça nous amène sur cette fin d'émission avec les dates à retenir.
Tout à fait.
Ce fameux agenda non exhaustif de ce que nous allons pouvoir retrouver prochainement, et en tout cas sur le mois de mai. Qui s'en empare, Florence?
Eh bien, c'est moi. Le 23 mai, vous avez une envie de tricoter. Eh bien, c'est parfait. Donc, vous pourrez aller à Buzzville. Il y a une animation de fil en aiguille pour découvrir le tricot.
On a également alors, une exposition qui est déjà en cours à la Maison des Arts d'Évreux, à découvrir l'exposition Les Îles au Trésor de François Place. Vous pouvez découvrir ses œuvres avec des originaux, des croquis carnés. Ça représente ses mondes extraordinaires, imaginés voilà, à travers ses albums, ses romans, à découvrir du 20 mars jusqu'au 23 mai. Donc allez-y, c'est la fin de l'exposition si vous ne l'avez pas vue. À ne pas manquer.
Ah, aux Andelys, le 1er mai, il va y avoir une chasse au trésor, parce que je suis sûre qu'il y a un trésor là-bas au Château Gaillard. Donc, vous pourrez aller essayer de le découvrir, en tout cas. C'est sur inscription, donc le 1er mai.
Et toujours sur un château, alors pas le même, là on est au château de Beauménil, à Ménil-en-Ouche. Vous avez Enquête familiale, ça a démarré le 11 avril et c'est jusqu'au 3 mai. Enquête familiale, c'est à partir de 6 ans. Vous pouvez visiter librement le château et mener l'enquête à l'intérieur. C'est en immersion, ça dure une heure et demie. Vous pouvez découvrir ça sur le site internet du château de Beauménil.
Et enfin, à Bézu-Saint-Éloi, il y a une journée d'archerie. Donc voilà, si vous voulez manier un archer, enfin devenir archer, voilà, vous pouvez y aller le samedi 25 avril, toute la journée de 10h à 18h.
Super.
Nous, on se donne le rendez-vous le vendredi 22 mai.
Exact.
Pour Culture et nous. Entre deux, vous pouvez toujours réécouter à l'infini le podcast qui sera disponible rapidement.
Merci, Justine.